18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de me retrouver, vous le savez, c'est parti pour Les Informés. Les Informés, commenter, analyser, décrypter l'actualité. Au sommaire de cette émission, plus que jamais vous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et c'est une très bonne chose. D'abord, l'interview du jour, avec aujourd'hui, vous savez, on va recevoir, pour revenir sur les attentats de Nice, avec un invité tout à l'heure, qui viendra nous parler, nous dire précisément son regard, évidemment, sur ce qui s'est passé concernant l'horrible attentat du 14 juillet 2016. Ensuite, vous le savez, eh bien, nous reviendrons aussi sur les sujets d'actualité. D'abord, vous, 0153 48 3000, sur la SNCF, sur les galères, la colère avec les usagers. Et puis, on reviendra aussi également à 18h30 sur le Quad 9. Le Quad 9, eh bien, c'est avec le docteur Majid Seoussine. Et puis, les débatteurs influenceurs, vous le savez, ils viendront confronter leur point de vue sur quatre sujets d'actualité. Donc voilà le programme que je vous propose. C'est parti, c'est tout de suite. Et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30. Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés. Les Informés. L'interview.
Et on est mercredi et on va recevoir Ali Chahiri, bonjour.
Bonjour Adil, comment vas-tu?
Très bien, je vous remercie infiniment.
Et vous, ça va? Excusez-moi, je vous ai directement tutoyé parce qu'on est un peu comme à la maison.
Non, il n'y a aucun souci.
Vous et toute votre équipe qui m'ont donné la parole ce soir.
Eh bien, écoutez, comment je peux vous présenter d'ailleurs, Ali Chahiri, parce que vous êtes là pour nous parler du procès donc concernant l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Vous êtes un des porte-parole concernant évidemment une des voix qui porte justement ce sujet.
Non, mais en tout cas, moi, ce que j'essaie d'apporter déjà, c'était un message de paix pour pouvoir se réconcilier. C'est ce que je voulais à la base. Et à partir de ce message de paix, un message d'espoir et un appel pour cela. Mais bon. Je n'ai pas pu vraiment avoir eu pour l'instant la parole, juste dans les réseaux sociaux, et je remercie d'ailleurs Yacine de Civicio qui m'a donné la parole et il m'a fait une longue interview. C'était une très belle rencontre et je le remercie pour ça.
Alors Yacine, vous, pendant l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, vous avez perdu votre maman.
Oui, ça a été...
Le pire, c'est que vous avez perdu votre mère. Racontez-nous, dans vos bras, pendant que vos enfants regardaient qu'ils essayaient de la réanimer. Racontez-nous, on veut revenir sur cette scène que vous avez vécue, qui est complètement traumatisante, Ali Chahiri.
Tout d'abord, elle a été traumatisante, monsieur, pour tous les Niçois, et la France entière. Mais alors, les Niçois, ce jour-là, notre vie a tous basculé. De l'élite jusqu'au gars qui conduit le VTC, tout le monde a été mobilisé.
Oui.
Du maire, tout le monde. Il faut remercier tout le monde, la mairie, tout le monde, parce que vraiment, là, on a vu vraiment la force, les cœurs des Niçois. On a vu le rassemblement, on a vu la solidarité au-delà des couleurs de peau, au-delà de la religion. Même si, bien sûr, il ne faut pas le cacher, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Il y a eu, après cet attentat, justement, malheureusement, très tragique, il y a eu de l'amalgame et beaucoup de préjugés, malheureusement, qui... Et c'est à cause de cela que j'ai, malheureusement, que j'ai dû me médiatiser, en fait. C'est parce que notre père, il voyait tout cet amalgame qui fait apparaître dans les écrans. Mon père, il a dit, sortez pour dire que votre mère, non seulement elle est musulmane, et en plus, elle porte le voile. Et là où elle était, parce que c'est tout le début, les Niçois qui m'écoutent connaissent la promenade, c'est la première victime, parce qu'elle était presque quasiment à l'enval. Ça veut dire que là où elle était, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait de l'espace. Ce n'était pas un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Alors, il faut comprendre que le camion l'aurait pu largement l'éviter. Mais elle était avec mon épouse et il a foncé vers elle.
Le camion Bélier, l'attaque de haut, camion Bélier.
Oui, je parle bien du camion, malheureusement, avec le monstre intérieur. Il a fait un carnage. Vraiment, ce que j'appelle ça, c'est un carnage. C'était une scène de guerre. Pendant une nuit, on a vécu une scène de guerre, une véritable scène de guerre. Parce que ce que j'ai vu, je l'avais jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un mourir comme ça devant moi. Et alors là, dans une violence...
Rappelons que cette attaque a causé la mort de 86 personnes. Et elle a fait plus de 560 blessés au total. Quand évidemment le terroriste, rappelons-le, il a été abattu par la police.
Oui, j'ai une pensée aussi, bien sûr, à toutes les familles des 86 victimes et à tous les blessés, parce que vraiment, je partage leur douleur, je connais leur peine de pas pouvoir, de plus pouvoir quelqu'un de proche et surtout encore plus sa mère. Parce que voilà, on n'a qu'une maman, vous savez, Julien.
Oui.
Il n'y a que la mère qui est derrière vous.
Absolument.
Vous savez, à un moment, quand. Moi, j'ai des garçons.
Moi, je ne veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, pardonnez-moi, Ali Chahiri, revenir sur cet événement. Mais comment, comment vous l'avez vu, comment vous le vivez quelques années après, avec le recul, évidemment, la mort de votre mère avec, je sais que, il y a eu 86 personnes qui sont mortes, hein, dans cet horrible attentat. Mais votre maman, quelques années après, justement, vous avez dit, ça vous a touché au plus profond de ma chair. Vous avez perdu votre maman dans les bras. Quelques années plus tard, comment vous le vivez, Ali Chahiri ?
Eh ben, écoutez, comme toute famille de victimes, on est passé d'état en état. D'abord, la sidération, après la tristesse, la colère, mais pas l'incompréhension pour moi, parce que ceux qui me connaissent, Ali, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Et alors donc, j'ai commencé, malgré que j'allais au psychiatre, j'ai commencé à faire des longues recherches, bien sûr, logiquement théologiques.
Oui,
parce que le terrorisme s'est adossé à notre religion, malheureusement, cette religion qui était pratiquée par nos parents, rappelons-nous, depuis qu'ils sont là, ils l'ont toujours pratiquée, et que via par Internet, c'est ça que j'ai essayé d'exposer avec Silicio. J'aurais pas le temps là, parce que malheureusement, mais c'est pour ça que j'invite tout le monde à regarder un peu mon mur et voir la façon dont j'expose. Comment est arrivé le terrorisme via Internet, ce cadeau du millénaire qui est en fait un cadeau empoisonné, où j'expose les suites, et après ce qui nous a amené aussi, parce que nous, à Nice, malheureusement, nous avons aussi le record des tristes départs en Syrie, de nos jeunes. Donc ça aussi, ça a été traumatisant nous aussi pour nous, les Niçois.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y avait tout ça, et j'ai compris qu'en fait, en vrai, pour raccourcir les choses, que l'islam ne peut pas se comparer à la terreur, parce que la paix ne se compare pas au terrorisme, en gros. Et après, des longues recherches à travers des associations, j'ai compris quelque chose qui m'a amené justement à vous parler beaucoup mieux qu'il y a 6 ans. C'est ça qui m'étonnait justement, parce qu'il y a 6 ans, on me courait derrière. Et là, maintenant que je vais bien, je leur cours derrière, il n'y a personne qui voulait. Incroyable.
Oui, c'était incroyable.
Bref. Et donc, j'ai trouvé un truc, je conseille à tout le monde, c'est l'introspection.
Ça l'introspection.
Veut dire qu'il faut faire, il faut faire, comme il dit Jules Verne, un voyage au
qu'est-ce
centre
qu'ils vous
de
disent,
la
vos enfants ? Vos enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent concernant cet attentat ? Est-ce que vous avez l'occasion d'en reparler avec eux ? Est-ce que vous revenez de temps en temps sur cet événement, Ali Chahiri ?
Avec eux, justement. On leur a enlevé leur innocence. Vous savez, un enfant, ce qui d'abord le caractérise, c'est l'innocence. Ça veut dire quoi ? Pas touché par le mal. Ils ont été touchés par le mal ce soir-là, je peux vous le dire. Parmi tous les autres enfants de Nice. C'est pour ça que j'ai une pensée pour tous les enfants des victimes de Niçois. Non seulement, bien sûr, pour ceux qui sont partis, ça c'est le plus dur.
Oui.
Parce que comme on dit, quand on perd ses parents, on est orphelin.
Oui.
Quand on perd sa femme ou son homme, il est veuve.
Oui.
Mais en français, dans la langue française, littéralement, il n'y a pas de mot quand on perd ses enfants.
Non mais c'est horrible, effectivement.
Il n'y a pas de mot, tellement que c'est horrible.
Mmh.
Donc tous les enfants qui sont restés vivants, blessés, encore pire, on leur a enlevé ce soir-là leur innocence.
Vous, Ali Chahiri.
Donc, moi, excusez-moi pour.
Allez-y, bien sûr.
Ce que je fais, écoutez, comme tout parent, je les protège, c'est-à-dire, je leur en parle le moins, monsieur. Parce que dès que, pour eux, imaginez, mon fils, je le tenais, quand je suis revenu, parce que j'ai vu le camion passer, mais c'était trop tard.
Ouais.
Je suis revenu sur la prom, il y avait un homme, je n'ai même pas envie de dégoûter vos trucs, mais en tout cas, une scène de guerre, des gens stupidés, un homme qui tenait un enfant et qui essayait de remettre le coup. Parce qu'il était plus désarticulé, comme une poupée, vous voyez, mais traumatisé, l'homme. Vous voyez, mais j'ai pas envie de rentrer
une scène
de guerre, mais moi, je suis un adulte. Tout le long, je tenais mon enfant. Je tenais Zacharia. Arrivé là-bas, il y avait Adam et Oumaya qui a été sauvé par mon cousin qui a fini dans les rochers.
Je
le remercie.
Oui.
Ah oui, il a sauvé.
Dites-moi.
Parce qu'au dernier moment.
Oui. Ali Chahiri, je voudrais juste parce qu'aujourd'hui c'est le procès de l'attentat de Nice, mais vous, je pense que vous avez fait porter votre voix pendant le verdict, pendant justement avec le procureur qui a accepté lui-même de revenir sur quelques débats. Comment ça s'est passé d'ailleurs ? Vous avez fait porter votre voix justement durant ce procès ?
Non, j'ai pas porté ma voix. C'est mon, bien sûr, je le remercie, Maître Samak, mon avocat qui s'est occupé.
Oui, j'ai bien compris, mais vous l'avez fait porter via votre avocat, on est d'accord.
Non, en fait, non, mais c'est pas ça. En fait, c'est que je suis venu à la base, ben, bien sûr, pour assister au verdict, comme tous les victimes. Il y avait énormément de personnes dans la salle, mais j'étais venu déjà comme pour objectif, comme je vous ai dit, d'amener un message de paix, faire comprendre d'où venait le terrorisme, parce que je partais dans un principe, certes, la loi, certes, la justice des hommes avec un grand H doit être appliquée. Donc, moi, je pars d'un principe. On a la chance d'avoir une justice, un pouvoir judiciaire indépendant, avec celui de l'exécutif et de législatif de son côté.
Oui, oui.
Donc, moi, je dis que les juges, ils sont indépendants et donc ils sont conscients et donc, performants pour pouvoir. C'est eux qui sont aptes et légitimes à dire, à prononcer un verdict, et moi je leur fais confiance. Mais je pense que malgré le verdict qu'il y a eu, vous voyez ce que je veux dire,
oui.
Je pense que, bon, en tout cas nous en tant que famille de victimes, ça complète pas les questionnements qu'il y a en nous, quoi.
Oui.
Donc c'est pour ça que j'avais amené...
Ça ne suffit pas pour vous, selon vous, les peines, on parle de 2 à 18 ans de prison pour les 8 accusés condamnés. Vous trouvez que c'est suffisant? Évidemment, je sais bien que ça atténue pas votre peine, ça, on le sait, et ça remplacera jamais. Mais est-ce que la condamnation suffit?
Alors, comme je vous dis, comme j'ai confiance à nos juges, oui, pour moi, elle suffit. Bien sûr, pour moi, la justice des hommes a été établie sur ce cas-là. Après, moi, je suis sincère, je fais partie des familles de victimes. Et moi, ce que je dis, parce que j'ai malheureusement, on m'a dit, oui, je ne défendais pas assez la cause, mais je dis que moi, je ne suis pas là pour faire de la polémique.
Oui, oui.
Moi, je sais que la justice, ça se fait avec des preuves. Ce n'est pas ce qu'on sait. Et donc, moi, je parle que s'il y a des preuves, maintenant, je parle, voilà, attention, voilà, je parle de quelque chose qui est grave. C'est-à-dire que s'il y a des preuves, et que si les juges trouvent des preuves, des pièces à conviction prouvant quelque chose sur le manquement à la sécurité ce soir-là,
oui.
Ou d'autres affaires, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, je comprends.
Là, le juge, il va faire son travail, il va appeler les enquêteurs, ben voilà, vous savez, moi je pense qu'il faut lui faire confiance. Et je veux pas
passer un message, je pense, Ali, Chahiri, justement.
Oui, le message de paix, c'était pourquoi le terrorisme? Mais dans ce cas-là, comme on n'a pas non plus, voilà, je ne veux pas vous déranger.
Je sais que vous êtes...
invité.
Non, mais je sais que vous êtes très attaché, justement, vous faites la part des choses entre le terrorisme, la religion, l'islam, tout ça, etc.
Oh, oui.
Et que vous voulez passer un message d'espoir, justement, sur l'avenir de notre pays. Vous dites que voilà, l'attachement de la France, tout ça, et qu'il n'est pas question de faire les amalgames.
Exactement. Ben, moi, je pense qu'après tout ça... Je pense qu'il y a un message d'espoir. Si vous me permettez, je vais le détailler rapidement pour que nos concitoyens y comprennent.
Oui.
C'est que moi, j'ai compris, justement, dans mes longues recherches, que en 2022, dans ce monde multipolaire, la France, et je parle de la France, de l'élite jusqu'au moindre citoyen et de n'importe quelle confession, je parle bien de tout le peuple de France.
Oui.
C'est-à-dire que, regardez, ma soeur, elle a écrit un livre qui s'appelle « Ma mère patrie ». Il n'y a pas de hasard. Mais là, je parle de notre mère patrie. C'est-à-dire que c'est une entité, et c'est nous, les enfants de la patrie, qui la composons tous. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que nous avons au sein de notre patrie 3 atouts. Mmh. 1, c'est des Français comme moi qui ont leur origine en Afrique.
Oui.
2, c'est la diaspora africaine qui travaille ici avec nous.
Oui.
3, tous les experts en géostratégie vous le diront, c'est le meilleur soft power, c'est la langue française véhiculée en Afrique francophone. Et ce que j'entends, moi, dans l'Afrique francophone, ce qu'ils nous disent, ils disent, voilà, au peuple de France, venez à nous à une parole commune, un échange gagnant-gagnant, un partenariat d'égal à égal, votre force.
Vous allez continuer, Ali Chahiri, de vous battre, hein?
Ah oui, mais ce qui a fait, comprendre, ce qui a fait notre force et notre grandeur en France, c'est quoi? C'est notre génie civil et militaire, notre capacité à s'organiser, vous voyez, je veux dire, tout le savoir-faire.
Oui.
Qui a été accumulé depuis le 15e siècle, depuis la Renaissance, en passant par les Lumières, tout ce génie, s'il le transmet à l'Afrique de bon cœur et crée ce pont de l'amitié, de la fraternité et de la sincérité, je pense que l'Afrique, en contrepartie, pourra lui fournir toute l'énergie et les matières premières pour faire fonctionner son économie.
Bon.
Et là, la France pourra revenir, juste pour vous finir, sur ce qui a fait sa grandeur. C'est quoi? La recherche, l'innovation. N'oublions pas que comme il a dit Idrissa Berkane, la Corée du Sud est passée en 22 ans à un PIB de Monaco.
Absolument.
Avec quoi ? Avec quoi ? Mais avec la connaissance. Ils ont un ministère de la connaissance.
Eh bien, merci.
Si en France, excusez-moi, juste pour comprendre que si en France, nous, avec la diversité qu'on a, si on réunissait nos cerveaux, demain, c'est nous qu'on va sur Mars.
Merci, Ali Chahiri. Voilà. Merci, voilà, Ali Chahiri. Voilà, vous, rappelons-le, ce fameux 14 juillet 2016 à Nice, vous avez perdu votre maman dans vos bras, effectivement, dans cet attentat. Rappelons-le, au total, donc, qui a causé la mort, 86 morts, plus de 460 blessés. Le procès aussi, hein, avec le verdict qui est tombé, vous nous l'avez rappelé. N'hésitez surtout pas, hein, mon cher Ali Chahiri, vous êtes le bienvenu ici quand vous voulez.
Ah, ben écoutez, vous m'avez dit, quand vous voulez, vous avez vu, hein, j'ai toujours quelque chose un peu.
Absolument. Absolument.
Ça me fera plaisir. Si ça a été agréable, en tout cas, ça a été agréable pour moi. Et je veux saluer toute ma famille, bien sûr, mes enfants qui m'écoutent, mes amis, et surtout un grand ami. Voilà, Reda Ridjati, qui, vous savez, c'est un grand chanteur de rail, qui est un grand entraîneur, qui était un grand joueur dans notre quartier, qui vous écoute beaucoup.
Ben bah, écoutez, on les embrasse tous et on les salue chaleureusement. Merci à vous.
Bonjour à tout le monde.
Merci, bonjour à vous aussi également. 18h16, on marque une courte pause et je vous attends au 0153 48 3000. Vous nous appelez, effectivement, là tout de suite maintenant, à la fois pour la grève, les usagers, les colères qui montent, tout ça, ça se passe ici, dans Les Informés. À tout de suite.
Les Informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h23, avant de retrouver le Quoi de Neuf avec le docteur Majid Soussine. Justement, je voulais faire un point avec lui, tiens, si on peut essayer de l'appeler, pourquoi ? Parce que c'est vrai que là, on me dit, il y a la grippe qui prend de l'ampleur, il y a les rhumes, il y a le Covid-19, bref, faut-il remettre le masque ou pas le masque ? Eh bien tiens, on va poser la question à notre chef. Notre docteur Majid Soussine, justement, qui intervient avec le Quoi de Neuf, mais s'il est dispo, bien. 01 53 48 3000, la colère montre, vous le savez.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
Et la colère monte, vous savez, auprès de qui ? Eh bien, tout simplement, de vous, les usagers. Tiens, je vais prendre les 01 53 48 3000, comme ça, en direct. Allô, bonsoir, bonsoir,
allô,
bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Quel est votre prénom ?
Oui.
Quel est votre prénom ? C'est oui ? Non, je crois pas.
Allô ?
Oui, je vous écoute. Ah ben, il y a un problème, lui, de connexion. 01 53 48 3000, donnez votre prénom. J'aime bien. Si vous avez un problème de connexion, bah, prenez le temps, d'ailleurs, de vous connecter. La colère à la SNCF, vous savez, les syndicats ont choisi, comme par hasard, vous savez, comme par hasard, ils ont choisi le moment des fêtes de fin d'année pour vous punir. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Mais en même temps, franchement, était-ce le moment ? Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, hier notamment, vous étiez nombreux à nous appeler pour nous dire que vous ne trouviez pas ça normal. Effectivement, je vous comprends. Choisir les moments de fête, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendent d'aller retrouver dans le sud, dans le nord, bon, leur maman, leur papa, leurs parents, leur entourage, tout simplement, pour aller se retrouver en famille. Eh bien, beaucoup d'entre vous se retrouvent coincés. Et ça, c'est fâcheux. 01 53 48 3000. Je vous attends. Vous venez, vous nous appelez pour nous dire effectivement quel message vous souhaitez, évidemment, comment vous souhaitez interpeller. 18h25, je voudrais qu'on parle avec le docteur Majid Soussine. Il est avec nous et c'est une excellente chose. Bonjour, docteur.
Les informés. Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est bonjour, pas tout à fait maintenant. On va vous retrouver pour le Quoi de Neuf, alors que les auditeurs sont en train de nous appeler massivement au 01 53 48 3000, parce que vous savez que, mon cher docteur, les usagers sont en colère, je vous le dis, à cause des grèves de train. Et ils ont choisi, comme par hasard, les fêtes de fin d'année. Vous trouvez ça normal ?
Ah, je pense que une grève, c'est fait pour embêter le monde, pour pas employer un terme.
Mais pas le jour de Noël, mon cher docteur. Pas le jour de l'an, franchement.
Mais ne sommes-nous pas dans une république laïque, mon cher ami ?
Ah, mais bon, il y a des gens qui galèrent, les pauvres, depuis 2-3 ans, afin de retrouver leur maman, leur père, leurs parents. Ils ne peuvent pas aller les retrouver pendant les fêtes. C'est pas normal.
Moi, je leur suggère d'utiliser les bus Macron ou de faire comme moi, de travailler à Noël.
Justement, je voulais vous prendre juste à quelques minutes avant. Mon cher docteur Majid Soussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille. Vous êtes aussi au SAMU, vous êtes à l'hôpital donc les Invalides chez les militaires. La classe internationale, mon cher docteur Majid Soussine. Dites-moi, docteur.
Je suis rien devant vous.
Docteur, non, si. Les cas des Covid, paraît-il, ça explose. Et que il y a la grippe, il y a les rhumes, et que tout ça, évidemment, nous place dans une situation où Elisabeth Borne encourage les Français à porter le masque. Vous dites quoi, vous ?
Moi, je pense que, franchement, s'il y a une chose qu'on doit apprendre en France, c'est porter le masque quand on est malade. Et je ne parle pas du Covid.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui vous écoutent ce soir. Vraiment, il faut qu'on soit précis, docteur.
On a ri pendant longtemps des Chinois et des Asiatiques qui portaient un masque dès qu'ils étaient malades. Et je pense que l'on devrait apprendre cela d'eux et qu'aujourd'hui, le précédent du Covid nous a donné une bonne leçon. Il n'y a pas de raison de transmettre le virus ou une infection quelle qu'elle soit à un proche ou à un inconnu. On voit encore trop souvent des gens qui éternuent, qui toussent au vu au su de tout le monde, qui parfois embrassent leur enfant de la manière la plus naturelle du monde et qui, de ce fait, les contaminent. Ça n'a pas de sens. Oui. Le prix d'un masque est dérisoire aujourd'hui.
Vous vous dites quoi alors? Elisabeth Borne, la première ministre, elle encourage les Français. Vous, docteur, vous dites quoi à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui?
Moi, je dis qu'on va avoir des grandes réunions de famille bientôt. Je pense que si on est malade, il n'est pas raisonnable d'y aller pour infecter toute la tablée. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la circulation conjointe du virus de la grippe, du virus de la Covid, dans les espaces clos ou les espaces fermés, il serait plus sage de porter un masque. Cela éviterait de diffuser un peu plus la maladie. Cela éviterait surtout aux personnes les plus fragiles de venir s'accumuler sur les urgences. Je ne sais pas si les auditeurs ont fait un tour dans un service d'urgence de n'importe quel hôpital de France.
Ah bah.
Cela ressemble probablement à un champ de bataille un peu partout en France.
Alors,
la situation hospitalière est catastrophique, absolument délirante.
Elle est délirante, vous dites justement. Alors, le cas de Covid, est-ce que c'est en hausse? Est-ce qu'on peut être préoccupé? Est-ce que c'est rassurant pour les prochaines semaines, mon cher docteur?
Bah, visiblement non, et ce n'est pas que le Covid qui est inquiétant, c'est l'adjonction de la Covid, de la circulation du virus du respiratoire syncytial pour les enfants et du virus de la grippe pour les adultes et pour les enfants. C'est ça qui fait que tout est en train d'exploser. Dans un système de santé qui est en totale décrépitude, on voit bien aujourd'hui qu'on nous annonce la création d'une carte de séjour spéciale pour importer des praticiens de santé d'un peu partout. Cela montre bien à quel point on est dans un état de ruine.
Oui. Oui. Dites-moi, les cas de Covid-19, aujourd'hui, quelles sont les projections? Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des projections dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Est-ce que le mois de janvier risque d'être préoccupant, mon cher docteur Majid Seoussine?
Moi, je n'oserais pas m'aventurer sur des projections sur le cas de Covid-19, mais le mois de janvier, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est préoccupant. Je répète encore une fois mon message, le système de santé français est en train de s'effondrer, ça fuit de partout, aussi bien en ville, aussi bien dans les campagnes, aussi bien à l'hôpital. Nous ne pouvons plus répondre aujourd'hui à une crise sanitaire majeure, nous ne pouvons plus répondre à une demande de soins majeure dans le système de santé français, et il faut que les Français l'entendent et s'y habituent. Et je n'ai pas pour envie d'être extrêmement alarmiste, mais c'est la réalité des choses.
La réalité des choses, c'est aussi, vous savez quoi, tous ces cas, c'est-à-dire la grippe qui se mêle, les rhumes, les brocolites aussi, bref, tout ça, est-ce que ça n'arrange pas évidemment, j'imagine, les services, le service soignant dans les hôpitaux?
Non, tout à fait. Puis en plus, ça tombe au moment des fêtes de fin d'année, où il y a un certain nombre de professionnels de santé qui prennent à juste titre des vacances, ce qui fait que les personnels disponibles sont moins nombreux, alors qu'on est déjà dans un contexte de pénurie de personnel, puisqu'il y a des lits qui sont fermés, faute par exemple d'infirmières à mettre devant. Donc en cette période qui est traditionnellement depuis toujours très très tendue, cette année elle est encore un peu plus tendue.
Un peu plus tendue justement, ma dernière question, qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui vous écoutent justement avec toutes ces histoires et cette hausse du Covid-19 qui prend de l'ampleur, qu'est-ce que vous leur conseillez, vous docteur Majid Seoussine, parce que vous êtes notamment au SAMU, donc vous les appels affluent en permanence, donc vous leur dites quoi?
Je leur dis d'une part, que si on va à une réunion de famille, qu'on a le moindre doute, eh ben, on se teste. Que si on est malade, on se met à l'écart avec un masque ou on évite d'y aller. Que si on est précautionneux et suffisamment averti, si on va voir son grand-père et sa grand-mère qui sont fragiles, eh bien, ça mange pas de pain de faire un test pour la Covid, sachant qu'il faut pas être faussement rassuré, ces tests en général ne concernent que la Covid. Il y a très peu d'endroits où on fait des PCR combinés entre pour la Covid et la grippe, parce que la grippe circule aussi très largement. Je dis aussi qu'il est temps de se faire vacciner pour la grippe, pour les publics les plus fragiles, et moi je vois encore des sujets âgés, par exemple, ou des gens atteints de pathologies chroniques qui ne sont pas vaccinés, ce qui n'est pas normal. Ça les protège.
Dites-moi, docteur Majid Seoussine, avant de retrouver votre chronique du mercredi soir, le Quoi de Neuf, on a même une minute de retard. Il y a Kaoutar Ben Mohamed, que vous connaissez certainement, y compris chez les grandes gueules, chez RMC, chez nos confrères. Kaoutar Ben Mohamed voudrait vous interpeller. Kaoutar Ben Mohamed, allez-y.
Oui, bien sûr.
Oui, bonsoir docteur. Moi, je vous interpelle parce que, bonsoir, je suis une personne dite à risque. Et je vous avoue que j'avais très peur au départ du Covid et que maintenant, j'ai un peu moins peur parce que je me suis vaccinée comme tout le monde, j'ai pris des protections comme tout le monde, j'ai respecté des distances de sécurité, je dormais presque avec le masque et j'ai quand même chopé le Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je suis partie de ces personnes qui sont sceptiques aujourd'hui et qui, moi, par contre, parce que je suis malade depuis 2011, j'ai vu depuis 2011 l'état de l'hôpital public se détériorer à chaque hospitalisation. Et je fais partie des personnes qui pensent que le Covid, on va vivre avec, comme la grippe et comme plein d'autres, comme la bronchiolite, comme la bronchite, comme pour tout. Et je pense qu'il faut... C'est assez agaçant, en fait. Je sais que vous êtes dans votre rôle, mais moi, en tant que citoyenne normale, pas médecin, c'est assez agaçant de toujours se faire rappeler à l'ordre. Sauf que le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, notre hôpital, notre système de santé est plus malade que nous quand on a le Covid. Et que, à part des Grenelles, à part des annonces, on n'a toujours pas les moyens, vous n'avez toujours pas les moyens de nous prendre en charge correctement et de nous sauver.
Docteur ?
Voilà. Vous avez absolument raison sur le fait que notre système est en état de décrépitude. Et aujourd'hui, ce n'est même plus qu'une question de moyens, puisque c'est une question de bras. Il y a une pénurie de personnel. On ne peut pas les fabriquer, on ne peut pas les dupliquer. Il y a un quart des Français qui n'ont plus de médecins traitants. On ne peut pas cloner des médecins à l'heure actuelle. Même s'il y avait des moyens, on ne pourrait pas rattraper ce qui est irrattrapable. Donc il va falloir gérer cette pénurie, inventer de nouveaux moyens de soigner les gens. Ça, c'est sur le point de la pénurie et des moyens. Sur le point de la diffusion de l'épidémie, ce n'est pas un rappel, c'est une mise en garde. On ne sait pas demain comment cette épidémie va évoluer. Alors, on va être obligé de vivre avec elle, certainement.
Absolument. Docteur, il me reste 3 minutes avant de lancer la pub. Vous avez le choix. Soit je lance la pub maintenant, soit vous avez 3 minutes pour tenir dans les clous pour votre billet d'humeur.
Allez, je me lance et j'adore les paris et les défis.
Allez, c'est parti, le quoi de neuf.
Les informés. Le quoi de neuf.
Le quoi de neuf avec le docteur Majid Seyoussine, c'est parti, c'est à vous.
Eh ben oui, mon cher Adil, la France n'est pas championne du monde.
Et je sais que... Ça, on le sait bien. Quelle déception.
Et je sais que vous êtes déçus.
Oui.
Un peu comme notre président,
oui,
qui comptait sur une victoire pour faire passer en 2 temps 3 mouvements sa réforme des retraites. Oh. Et oui, c'est raté. Oh.
Clochette, non mais oh.
D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est un petit peu porte-poisse. Tout allait bien jusqu'à la demi-finale à laquelle il a décidé d'assister en faisant un aller-retour. En avion électrique, bien sûr.
En avion électrique.
Car tout le monde sait que c'est un grand protecteur de la nature. À peine arrivé...
Ah, génial.
À peine arrivé, il fait la bise aux footballeurs. Et ne voilà-t-il pas que ce fameux virus se met à circuler ? Étrange, non ? Ne serait-il pas payé par l'Argentine ?
Oh là là, j'ai chaud.
Le comble, mon cher Adil, ce fut pendant la séance de tir au but où tout le monde l'a vu sauter dans tous les sens, bouger rien que pour distraire Hugo Lloris et lui faire rater ses arrêts. Je suis de moins en moins sûr qu'il soit patriote.
Ouais, ouais.
À l'inverse, d'Anne Hidalgo, notre chère maire de Paris,
ouais,
qui nous a superbement vengés en organisant à Buenos Aires un de ces embouteillages géants dont elle a le secret. Les footballeurs ont dû être transportés en hélicoptère.
C'est vrai.
Merci Anne. On est content de voir que vous êtes si puissante. Je suis sûr que si elle avait été élue, elle aurait été capable d'organiser un tel embouteillage à la frontière russo-ukrainienne qu'aucun char russe n'aurait pu passer. En tout cas, nous voilà rassurés. Grâce à notre parcimonie à tous, il y a peu de chances que surviennent des coupures électriques.
Oui.
Et ce n'est pas une raison, Adil, d'en profiter pour allumer votre boule à facettes dans votre chambre et de laisser toutes les lumières dans votre château. D'ailleurs, pour ma part, je vous invite à la plus grande sobriété, car il semblerait tout de même que 2023 ne s'annonce pas comme l'année de l'abondance.
Ah, ça c'est sûr.
Même si pour vous, avec les virements que vous recevez du Qatar, vous avez de quoi voir venir.
J'aimerais bien. J'aurais kiffé, mon cher docteur.
toujours est-il,
on rigole,
nous promet le meilleur pour le premier semestre.
Absolument.
Une inflation qui va continuer de grimper, une réforme des retraites qui risque de provoquer quelques turbulences, une incertitude sur qui va gagner en Russie, Poutine réussira-t-il peut-être une remontada à la Mbappé, qui sait. Et aussi, est-ce que Emmanuel Macron osera-t-il tenter la dissolution ? Car là, nous risquons de plonger dans le maelstrom. Peut-être que le plateau de votre émission Adil serait le seul refuge où on serait en paix. En tout cas, cela fait de bonnes raisons pour profiter de 1 ou 2 réveillons à venir, en ayant quand même une pensée pour ceux qui travailleront pendant que d'autres feront la fête,
comme
et
vous,
à qui on ne pense pas souvent.
Comme
et d'ailleurs,
vous,
j'ai une pensée émue pour moi-même,
oui,
qui serait de garde le 24
et le 25. Et le 25.
Comme vous le savez.
Respect, docteur.
La petite épicerie arabe ne ferme jamais.
La petite épicerie arabe ne ferme jamais, il est bon ce docteur. D'abord, 2 bravos. Le premier pour votre billet d'humeur, excellentissime. Et le 2e bravo, vous savez quoi ? Vous avez tenu dans les clous. Vous étiez dans les clous.
Ah ouais.
Voilà, on va lancer la pub. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? D'abord, 1, bon courage pour le 24 et le 25. 2, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'on se retrouve, nous, la semaine prochaine, vous savez, c'est la trêve, c'est les vacances, et on se retrouve à la rentrée.
Ah ben avec joie, mon cher.
Avec grande joie partagée. Avec d'autres plumes. Absolument. Et prenez soin de vous le 24 et le 25. Hein.
Portez-vous bien.
Merci, mon cher docteur. Quelle classe internationale. On lance la pub. Et on a les auditeurs au 0153 48 3000. J'ai notamment, je commencerai par Hakim de Lyon. Tiens, venez ici pour parler de la galère de la SNCF, mais également de la colère des usagers. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkas.
Si vous venez de nous rejoindre 18h44 dans les informés, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Dans une poignée de secondes, nous allons accueillir Kaoutar Ben Mohamed et Gamal Abina, deux, justement, grandes gueules qui vont se retrouver autour de quatre sujets d'actualité. Mais je vais aller direction Lyon pour accueillir Hakim. Bonsoir Hakim.
Allô, salam alaykoum.
Alaykoum salam, bienvenue.
Merci de m'avoir accueilli.
Avec plaisir, mon cher Hakim, avec plaisir.
Ouais, moi, c'était juste pour dire, en fait, c'est par rapport à la grève, là,
ouais. Tout ça, et tous les trucs. En fait, c'est vrai que les auditeurs, hier, ils ont massivement appelé ici, là. Ils étaient en colère.
Ah bon,
en colère.
Ah non, mais moi, je reçois tout, en fait, parce que t'as vu, moi, je suis chauffeur de car, en fait, je suis conducteur de car.
Ah bah voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens, est-ce que les gens, ils switchent ou pas?
Bah en fait, ils trouvent la première chose, en fait. Vu que moi, je suis avec Flixbus, du coup, bah, première chose, ils vont sur les cars Macron et on réserve, il y a des bons qu'on ne peut pas accepter, quoi.
Vous êtes inondé, vous, non, en ce moment?
Ouais, laisse tomber, en plus avec les stations de ski et tout le machin.
Ah, c'est ça, ouais, c'est ça, il me semble, hein, parce que, à mon avis, avec les grèves, tout ça, etc., là, ça y est, là, c'est pas de tout repos pour vous, Hakim.
Ah non, c'est la grosse fatigue, on commence tôt le matin pour se faire très tard le soir.
Ouais.
Et comme on dit, c'est pour au moins satisfaire le client, parce que en plus on est en manque de chauffeurs, c'est national.
Oui.
Du coup, on est obligé de se mettre en fait, rattraper des lignes ou combler un vide, quoi.
Et après on dit la France ne travaille pas. Regardez-la, la France, elle est là, elle travaille. Regardez Hakim.
Ah,
très tôt le matin jusqu'au soir, très tard le soir.
Bien sûr, après, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix, là. Si on peut aider, on aide. Et après,
Ouais,
je dis ça, c'est pas, je dis parce que je suis à la radio, là. C'est vraiment, on essaie de combler. Mm. C'est ça pour les personnes qui veulent partir en vacances et tout, quoi.
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous suggérez, justement, vous, où il n'y a pas de vacances, j'imagine?
Bah là, non, pas de vacances jusqu'à au moins mars.
Jusqu'à mars, quand même. Hein. Ouais, vous allez pouvoir tenir ce rythme matin et soir, là, comme ça?
Non, je ne vais pas tenir. Enfin, on a des jours de repos un peu, mais comme hier, je devais être en repos. On m'a appelé, on m'a dit, ouais, faut que tu viennes. On n'a pas le choix. Enfin, on est dans une galère très, très grosse, quoi.
Oui, très grosse. Ouais.
Donc,
vous dépannez.
Du coup, voilà, je dépanne un maximum. Après, des mois, c'est vrai qu'il nous faut le repos, quoi. Il faut vraiment se reposer.
Bon courage, Hakim. Bon courage à vous. Hein. Accrochez-vous bien. Ne lâchez rien.
Merci. Bien sûr, on lâche rien du tout.
Allez, vous continuez de nous appeler au 0153 48 3000 en vous attendant. C'est parti tout de suite, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Allez chez nous. Kaoutar Ben Mohamed, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va? On est ravis de vous accueillir ici même.
Je suis ravie aussi.
Un plaisir, merci. Vraiment.
Merci.
Grande gueule chez RMC, chez nos confrères. Et grande gueule ici aussi?
Grande gueule dans la vie tout court.
Ah, clochette. Tiens, c'est sa première clochette, voilà. Grande gueule tout de suite dans la vie tout court.
Mais oui, et
pourquoi?
Je suis ici.
Pourquoi grande gueule tout de suite dans la vie tout court? Pourquoi?
Parce que c'est la vie qu'il veut, en fait.
Oui.
La vie, tu sais, elle n'est pas...
Rapprochez bien, tirez le micro vers vous, parce que je sais...
Pardon. Est-ce
allez-y.
Que là, ça va mieux?
Non, prenez bien vers le bas et tirez vers vous. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de...
Oh,
pourquoi?
Parce que, et pourquoi il devrait y avoir une raison? Ça, c'est une question qu'on pose qu'aux femmes. Mmh. Quand elles ont une grande gueule, pourquoi elles ont une grande gueule? Et quand c'est un homme, c'est normal. Je suis faite comme ça.
Vous avez raison. C'est vrai. C'est la meilleure réponse qu'on puisse donner. Face à vous, Gamal Abina, je crois que vous le connaissez aussi.
J'ai eu l'occasion de le rencontrer.
Gamal Abina, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien, comme d'habitude. Comme d'habitude.
Absolument. Messieurs, madame, monsieur, tout de suite, nous allons démarrer avec les sujets qui ont retenu notre attention. Vous savez, on va revenir sur plusieurs événements. À la fois cette grève et cette colère qui monte, qui grimpe. Marine Le Pen aussi qui demande à Elisabeth Borne de dissoudre quelques, évidemment, corpuscules extrémistes. On reviendra aussi sur cette finale. Macron, en a-t-il fait trop? On en reparlera. Mais tout de suite, c'est la SNCF avec, justement, est-ce que c'est le moment choisi pour l'annulation des trains qui, à la fois, c'est par les familles, qui provoquent la colère des usagers. Bref, ça perturbe tout. Et c'est le ras-le-bol général. Kaoutar Ben Mohamed.
Un ras-le-bol justifié. Oui. Cher. Bah, d'ailleurs, je suis là parce qu'il y a la grève des trains, parce que initialement, je devais être aux Grandes Gueules vendredi. Mon planning a changé par rapport à l'actualité, donc j'ai été lundi. Et je suis remontée à Paris pour faire voir un médecin à mon enfant. Je devais rentrer vendredi et je ne peux plus rentrer. Je suis bloquée ici.
C'est le comble,
donc,
ça.
On ne va
le
pas,
comble.
Ça va me coûter un bras d'hôtel. Je ne pourrai pas fêter Noël avec mon fils chez nous. Donc, on ne sait pas comment on va le fêter, etc., etc. Alors, autant je les soutiens. La fois dernière, je suis aussi restée bloquée. Mais mon fils était en sécurité. Et
là, vous êtes en colère.
Je suis en colère, mais c'est tellement pas pour moi. Parce que mon fils, il est avec moi dans l'absolu. Mmh. En fait, c'est une période, au-delà d'être une période de fête, c'est une période où il y a tellement de familles monoparentales, de
absolument
personnes qui sont séparées.
C'est ça qu'il faut se dire.
Et il y a plein de parents qui ne vont pas voir leurs enfants, de grands-parents. Et moi, c'est ça qui me met en colère. Moi, je suis pour toutes les grèves. Je soutiens toutes les grèves. Je manifeste partout. J'ai arrêté depuis le Covid par rapport à mon état de santé pour ne pas le choper. Mais je comprends les luttes et il est normal que les personnes se battent pour maintenir leurs droits acquis ou en acquérir d'autres. Ça, il n'y a aucun souci. Sauf qu'il y a des périodes qui sont sacrées. Et en l'occurrence, quand un parent doit revoir son enfant et vice-versa, qu'il n'a pas vu depuis cet été, c'est absolument inconcevable. Et du coup, c'est le mauvais format parce qu'ils se mettent la France à dos et plus personne.
Mais alors, pourquoi les syndicats ils choisissent le moment de Noël et de les fêtes de fin d'année? Pourquoi ce choix-là? Et donc ils prennent en otage les usagers, en
c'est,
gros.
J'aime pas le mot prendre en otage parce que c'est des abrutis. Je leur dis, je les connais tous.
Oh là là, ça va chauffer, ça va chauffer. Je vous le dis. Ça va chauffer, ça va chauffer.
Si tu veux faire la grève,
tiens, on va appeler Jimmy.
Patron,
tiens, on va rappeler un représentant de la CGT.
Tu appelles qui tu veux. Enfin, vous appelez qui vous voulez. Il y a aucun problème. Tu peux m'appeler. Enfin,
non, mais on va l'appeler. C'est intéressant de voir leur point de vue. Est-ce qu'ils vont bouger ou pas? Mais c'est vrai, c'est inconcevable cette histoire-là.
Quand tu veux,
les abrutis. Est-ce que, tiens, je vais solliciter les auditeurs, 01-53-48-3000. Est-ce que vous partagez l'argument, l'opinion de Kaoutar Ben Mohamed que c'est des abrutis? Assumez.
Assumez.
Assumez, des abrutis. Voilà ce qu'elle dit. 01-53-48-3000, est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos? Gamin Labina, dites-moi tout.
Ben moi, je trouve qu'il y a parfois.
C'est des abrutis?
Oui, non, mais plus que les abrutis, des crétins congénitaux. Je vais encore plus loin. Non, c'est dégoûtant parce que d'abord, il y a un autre mode de grève qui existe, qui s'appelle la grève du zèle, elle vient d'en parler, à savoir ouvrir gratuitement l'usage des trains.
Exactement.
Comme ça, on est d'accord avec eux, ça fait du mal à la SNCF et pas aux usagers, et les gens ne sont pas sanctionnés. Je rappelle tout de même...
01-53-48-3000, je sollicite les auditeurs, Kamel Abina.
Oui, j'entends bien. On sortait d'une période, d'abord il y a eu les gilets jaunes, puis il y a eu grève, et puis Covid, donc personne ne pouvait se réunir en famille, et pour une fois cette année qu'on peut enfin avoir une réunion de famille un peu apaisée, ils nous coltinent ce genre de chantage qui est minable, ouais. Alors que de toute façon, quoi qu'il arrive, le gouvernement aussi est responsable, de toute façon il y a bien une inflation à 10 points.
Bah non, il a pris la parole tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement.
Ils sont responsables.
Monsieur Véran.
Ils savent parfaitement.
Tiens, le réalisateur va retrouver sa déclaration. Monsieur Véran a dit qu'il partageait les émotions, il partageait justement la colère des usagers.
C'est normal, il va se mettre du côté de la majorité.
Oui.
Il ne va pas dire que je suis d'accord avec la...
Mais parce que vous dites que c'est en partie aussi...
Non, ils sont responsables d'une chose. On pouvait éviter la grève s'ils avaient automatiquement augmenté les salaires. Puisqu'on va arriver à l'augmentation à la fin. Il y a une inflation galopante, soit ils baissent l'inflation, ils ne peuvent pas. Donc augmenter les salaires, comme ça on évite la grève.
Oh là là là, tiens, allez, je vais accueillir Fatia de Paris. Bonsoir Fatia.
Allô, bonsoir Nadine.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Fatia?
Je suis retraitée.
Retraitée, bienvenue, on vous écoute. Alors, est-ce que Kaoutar Ben Mohamed, quand elle parle d'abrutis, que c'est abruti de faire ça et que c'est des abrutis de faire ça, est-ce que
oui,
vous êtes d'accord?
Oui. Bon, en deux minutes, je vais vous dire. Je saisis l'émission. Mmh. Et donc, ce qu'avait dit tout à l'heure l'intervenant à propos de Nice, on a une pensée pour toutes les familles de victimes et des blessés. Et ensuite, j'ai suivi. Et là, quand vous avez, je vous cache pas que l'intervention du médecin, du docteur était magnifique. Mmh. Il a
comme
tout dit
tout, comme
par
tout
rapport
temps
à, voilà, exact, c'était magnifique.
Oui.
Et vraiment de haute portée, hein.
Ah, là, c'est la grande classe, je vous le dis.
Ah, mais franchement, je laisse tout pour écouter votre émission, faites pour ça.
Ah, ça va lui faire plaisir.
Eh ben, je vous assure. Eh ben, quand je vous ai entendu annoncer Kaoutar, oui, alors là, j'ai sauté,
oui,
parce que j'ai dit...
Elle vous écoute, hein. Parlez-lui, elle vous
écoute. Eh bien, Kaoutar, elle peut être ma fille. Voilà, je peux
merci
le dire, moi j'ai une fille qui a la
je
quarantaine.
Je lui ai dit que c'est sa place ici, elle me croyait pas. Alors,
je vais même, par rapport à mon droit d'aîné, qui me donne le droit d'être peut-être l'âge de sa propre maman, de la tutoyer pour enlever
problème
le mur de, je vais pas dire de Berlin, mais de l'affection, tout ce qu'on veut. Il devrait y avoir...
Vous la kiffez, Kaoutar, je le sens, là.
Vous savez, avant, je ne regardais pas les grandes gueules. Je ne savais pas que c'était télévisé. Depuis que je l'ai découvert, Kaoutar, et j'adore cette émission. Voilà.
Merci beaucoup.
Bravo, Kota.
Je suis hyper touchée.
Comment on dit, Mashallah. Franchement, il devrait y avoir des counters sur tous les plateaux télé en France.
Eh ben alors, vous savez ce qu'on va lancer comme message ? Des counters sur tous les plateaux de France.
On va les former, Fatia, on va les former. Il faut que les personnes
Elle est spontanée. Cancer est spontané dans ses propos parce qu'elle est sincère, ça va droit au cœur. Et heureusement que tu es sur un plateau avec les grandes gueules où tu t'exprimes librement. Pas de, je ne vais pas nommer les autres plateaux, notamment l'un qui commence par C. Voilà. Donc, je te.
Elle vous répond, Fatia. Elle va vous répondre. Attendez, vous dites tellement de belles choses. Elle va vous répondre.
Je t'adore. Voilà.
Merci.
Et je suis passée, la première, j'ai eu cette chance. Voilà.
Quelle déclaration, Kauter.
Je suis hyper touchée. Et j'avoue que ce qui me fait tenir, parce que ce n'est pas un rythme simple, c'est moi, je suis mère célibataire, je suis une femme qui est polypathologique, c'est très compliqué pour moi.
Courage, courage.
Moi,
je l'ai
dit.
Kauter, tu veux que je te dise ?
Oui, dis-toi.
Moi, j'ai 70 ans. Moi, j'ai été divorcée. J'ai quitté le mari. J'ai claqué la porte d'une famille, de ma belle-famille à 26 ans. Et je suis sortie de chez mes beaux-parents avec ma fille. Je l'ai eu chez mes parents. Et après, j'ai bataillé en Algérie parce que c'était pas facile d'être une femme divorcée avec un enfant. Voilà. Donc, tu imagines la guerre que j'ai faite là-bas.
J'imagine, parce que ma mère a divorcé avec cet enfant dont je suis l'aînée, donc je sais ô combien c'est difficile et ô combien les femmes comme vous, moi, ma mère et tellement d'autres anonymes portent leurs enfants, leur foyer et portent quelque part l'avenir de la France et de d'autres pays à bout de bras. Et moi, si je tiens et que je fais les allers-retours et que je galère parfois à faire garder mon enfant et que c'est pénible physiquement, etc., je tiens grâce à des personnes comme vous, à des femmes comme vous, qui m'envoient ce type de message en MP, qui m'envoient ce type de message quand je suis sur les ondes de RMC.
Sauf que là, la France vous écoute.
Et non, mais parce que c'est important, parce que notre voix n'est pas entendue et il est important de dire à chaque personne qui nous écoute, en particulier les jeunes filles, en particulier les femmes, que ce pays est aussi le leur, que leurs parents et leurs grands-parents ont libéré ce pays, qu'ils l'ont construit et qu'ils font partie de l'identité nationale et qu'ils ont le droit de s'exprimer toutes les ondes, que ce soit ici ou ailleurs. Et sur la chaîne dont vous parlez, j'ai déjà été interviewée et croyez-moi que je n'ai pas été bridée non plus. Moi, je suis imbridable, vous voyez. Peu importe l'intervention, ils entendent ce qu'ils ont à entendre.
Voilà. C'est ta force. Voilà. Eh bien,
merci beaucoup en tout cas. C'est mon cadeau de Noël.
Je vais te dire, je sais qu'il y a les problèmes d'aller et venu pour que tu dises les choses justement sur le plateau, il ne faut pas lâcher. Eh bien, pour ton enfant, moi j'habite à Paris, il est le bienvenu si tu as des contacts.
Vous avez vu, en plus on vous accueille.
C'est trop gentil.
Vous avez vu ça, franchement, Fatia.
Mais il est scolarisé, quand je viens c'est en semaine, donc c'est à Marseille que ça se passe. Mais merci beaucoup, j'en prends bonne note.
Moi je peux lui donner des petits soutiens en maths parce que j'ai été prof de maths par le passé.
Je vais prendre vos coordonnées, ça m'intéresse beaucoup. Aidan, tu as une prof de maths.
Faudil, il va prendre vos coordonnées. Non mais attendez,
je rigole pas, je suis très sérieuse, Fatia.
Fatia, vous prenez
moi. Ça tombe jamais dans mon fils.
Regardez ce que je fais. Regardez ce que je fais.
Tu as dit que tu ton enfant que tu peux pas aller le voir.
On l'a pris en photo. Viens, prends le micro. Aïdan, tiens. Là, juste là. Dis bonjour à Fatia, Aïdan.
Voilà.
Bonjour. Attends, on va ouvrir son micro. Bonjour, Aïdan.
Il s'appelle comment, Aïdan?
Aïdan. Aïdan, dis bonjour. Non, mais son micro n'est pas ouvert.
Viens ici, Aïdan.
Alors, Aïdan, on t'écoute, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire à Fatia?
Il a quel âge?
12 ans.
Oh, il a 12 ans, l'âge de mon petit-fils a 13 ans. Voilà.
Eh bien, voilà.
Donc, il est avec moi l'après-midi. Il est avec moi. Je l'ai accompagné. Il a une passion, les trains, les avions et tout. J'étais avec lui pour voir des trains et filmer des trains. Voilà.
Je vais vous l'amener pour de bon, pas pour rigoler, vous allez voir. Alors, Aïda, non, pas du tout. C'est le fils à sa mère. Il est très empathique. Il est OK pour rencontrer tout le monde. Il va vous le dire lui-même, d'ailleurs. Je t'en prie.
Aïdan.
Non, on a un problème de micro là.
Viens ici, chérie.
Viens plutôt là.
Attendez.
Non, on ne l'entend pas du
tout. Attendez, parce que le micro ne fonctionne pas.
Je ne sais pas pourquoi. Tiens, viens ici, viens chez moi. Viens. Voilà.
Normalement,
tiens. Allez, viens, vas-y.
Alors, merci beaucoup, madame.
Oh, c'est gentil. Tu t'appelles Aïdan. T'as un magnifique prénom, hein, franchement.
Merci.
T'es en vacances là maintenant.
Il a l'air tout timide, Aïdan, non?
Oui, les trois premières minutes.
Ça se passe bien en maths?
Oui, ça va.
Très très bien.
Salut ta professeure de maths.
Vous avez vu, il y a que ça se passe en direct.
Salut ta professeure de maths.
Il n'y a aucun souci.
En direct, vous vous rendez compte quand même, en direct, on.
Merci, Fatia.
En direct, vous avez vu, ma chère Kauter? En direct, on fait tout ça.
Mais bien sûr. Voilà, j'admire tellement
ça. Merci, Fatia.
Asia,
j'ai envie de vous dire, merci pour votre générosité, merci pour tout, et merci pour votre fidélité surtout.
Et pour votre spontanéité aussi.
Et la spontanéité, absolument, la raison, Kauter.
Merci, merci. J'embrasse.
On vous embrasse.
Belle fête.
Au revoir.
J'ai pris vos coordonnées, je les transmettrai à Kauter Ben Mohamed. Ah, revenons à la grève. Tiens, on a notre représentant CGT, Jimmy Dalidou, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Alors, tu es représentant, d'abord vous êtes débatteur ici, Jimmy Dalidou, vous êtes représentant CGT, j'ai Kauter Ben Mohamed qui est une grande gueule chez les GG, RMC, mais elle est aussi chez nous. Et elle voudrait, effectivement, on parle de la colère des usagers, Jimmy, vous le savez, on en a parlé hier encore.
Bien sûr, bien sûr.
Sauf que là, elle dit que vous êtes des abrutis. Alors voilà, au moins c'est clair. Alors je vous laisse échanger avec Kauter Ben Mohamed, Jimmy Dalidou.
Ouais, alors bonsoir Kauter.
Bonsoir Jimmy, on s'est déjà croisé je crois, au Grand Forum.
On s'est capté sur Radio France Maghreb.
Oui.
Il faudrait que tu nous expliques avec un petit peu plus de précision ce que t'entends par ce sont des abrutis, etc. Parce que il me semble pas que que le peuple travailleur soit... des abrutis à partir du moment où ils posent des revendications qui trouvent une cause sociale profonde, différentes contradictions, conflits qui n'ont pas été résorbés, qui ne trouvent pas des problèmes, qui ne trouvent pas de solution. Et à partir du moment où le peuple travailleur est en colère et qu'il a des revendications à mettre en exergue et qu'il a élu, il ne faut pas oublier, qu'il a élu des représentants syndicaux, qu'il a élu des formations syndicales qui sont là justement pour cristalliser ces revendications et pour prendre la responsabilité. Je ne vois pas dans quelle mesure on serait des abrutis, ou en tout cas, dans ce cas-là, tu es en train de dire que le peuple travailleur de France sont tous des abrutis.
Kauter Ben Mohamed.
Je vais commencer par parole.
Alors attendez, avant de vous répondre, Kauter Ben Mohamed.
Excuse-moi, le peuple travailleur de France ne se limite pas à la SNCF, tu m'excuseras, et que toutes les personnes qui ont pris des congés pour aller voir leurs enfants, leurs parents, sont aussi un peuple travailleur, ne t'en déplaise, et j'en fais partie. Ceci étant dit, si tu négocies comme tu t'adresses à moi aujourd'hui, je comprends pourquoi les négociations n'aboutissent pas. Tu comprends? Et je dis que vous êtes des abrutis parce que vous prenez les Français, ou pas d'ailleurs, les habitants de ce pays qui sont en période de fête, qui sont en période de trêve. S'il y a un moment où la France s'arrête, c'est pendant cette trêve, comme on dit, des confiseurs. Je vais terminer, je ne t'ai pas coupé, donc je ne te permets pas de me couper. Je te remercie. J'ai écouté tes arguments qui étaient très faibles, tu vas écouter les miens. Comme tout le travail de la France.
Rapidement, parce qu'on ne va pas passer l'émission tout autour de ça.
Oui, non, mais voilà.
Je voulais cet échange justement pour...
Si tu veux avoir le peuple français, les habitants de ce pays, les usagers de la SNCF qui payent deux bras et deux jambes, je fais l'aller-retour toutes les semaines, 236 € pour monter dans un train qui est sale, qui est toujours en retard et compagnie. En seconde classe. Excuse-moi du peu, on verra d'autres services. Quand il y a un malaise, on ne te donne même pas un sucre dans le train. Je vais terminer.
Elle termine.
Excuse-moi, ouvrez les vannes, laissez-nous tous monter gratuitement et tu verras que le patron de la SNCF va te recevoir en 10 secondes et demie, que tes revendications, tu vas les poser et que tu vas gagner. Mais tant que tu te mets toute la France à dos en cette période particulière, ni tu vas gagner ton combat et ni tu vas avoir les Français de ton
côté. Jimmy Dalidou.
Oui, alors, plusieurs choses. Alors, je comprends que tu sois tout émotionné, mais t'inquiète pas, hein, y aura d'autres moyens de...
Il n'y a aucune émotion, c'est que de la colère.
...qui vont te permettre de t'acheminer en cherchant un petit peu, tu trouveras. Ensuite, le peuple travailleur, tu sais, effectivement, il y a une partie du peuple travailleur qui est sur le quai, malheureusement. Alors, plusieurs choses. D'abord, quand on pose des revendications et un préavis grève, ça ne fait pas plaisir. On n'est pas des sadiques, on n'est pas des sadiques sociales. Contrairement à un gouvernement...
Mais vous reconnaîtrez quand même, Jimmy Dalidou, que faire ça le moment où il y a les fêtes de fin d'année... Certains, d'ailleurs, ne voient pas leurs parents depuis des mois,
exactement,
depuis des années. Qu'est-ce
bien
que
sûr,
vous leur répondez?
Mais laissez-moi finir. Je réaffirme que lorsqu'il y a des préavis grève, on le fait à contre-cœur. Malheureusement, c'est comme dans les hôpitaux et comme dans les, comme partout dans les... Dans toutes les grosses formations du service public.
Dans les hôpitaux, ils continuent à travailler.
C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que c'est le cadre légal. Sinon, on est pour judiciaire. Sinon, ils sont pour judiciaire. C'est pour ça qu'ils ne font pas grève. Sinon, ça fait belle lurette que vos hôpitaux, ils seraient fermés. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Ensuite, tu me parles des trains qui sont sales, etc. S'ils sont sales, c'est pour plusieurs choses. Ça fait des années que les syndicats, nous, on a pris nos responsabilités en disant que les trains sont sales parce qu'il n'y a plus de personnel. Parce qu'il y a des suppressions de postes. parce qu'il y a beaucoup de... Sur 100 recrutements, vous n'avez que très peu d'entrants dans l'entreprise, parce que l'entreprise préfère licencier plutôt que de recruter, elle préfère supprimer des postes.
Mais pourquoi vous choisissez le moment des fêtes de Noël, de fin d'année, justement pour condamner tous ces usagers qui en ce moment sont en colère? Vous comprenez cette colère, Jimmy Daliou? Vous l'entendez, cette colère? Notamment, j'ai eu un témoignage d'une femme qui disait « Mes enfants ne peuvent pas venir me retrouver parce que, évidemment, il y a l'annulation des trains ». Oui, allez-y, Gamal Abina. Il veut vous interpeller, Gamal Abina.
Il faut quand même préciser le cadre. Lorsque Kraotal parle d'abrutis, elle parle des responsables syndicaux qui ont une alternative.
Tout à fait.
Si l'hôpital travaille, c'est tout à leur honneur. Ils auraient pu faire ce qui évidemment poserait problème à l'État, la grève du zèle. Ouvrir les vannes, laisser les gens se rendre en vacances, ça coûte rien, il y aurait un afflux massif et ça mettrait à genoux la SNCF. Exactement. Or, ils ne le font pas, la grève du zèle. Ils préfèrent casser les pieds aux usagers, ça, c'est pas sympa.
Je vais vous répondre et je vais faire une pierre de coups. Parce qu'en fait, la grève par gratuité, ça fait belle lurette que la CGT cheminot, par exemple, l'a mis en exergue. Mais pour cela, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut être stratège. C'est pas pour rien qu'on a appelé depuis des années les associations au développement des associations d'usagers. Pour répondre à Coauteur, tu disais que tout le monde est contre nous. Ben non. Les médias qui sont des organes d'agitation propagande, savent très bien qui ils font parler. Je veux dire que beaucoup sont pas forcément hostiles à nos revendications. Ensuite, le peuple travailleur.
S'il
faut arrêter avec le peuple travailleur. André, il n'y a que toi qui travailles, en fait.
Ça fait des années qu'on a appelé clairement à les associations d'usagers et les usagers à rejoindre le mouvement, à intégrer le mouvement sur la base de revendications universalisables, notamment la revendication principale actuelle qui est l'augmentation des salaires pour tous les travailleurs qu'ils soient.
Jimmy, la grève du zèle, il faut répondre là-dessus, c'est pas compliqué. Pourquoi ils n'ouvrent pas la porte?
Il n'y a que lui qui travaille, en fait, il fait son discours syndical.
Je veux entendre pourquoi pas de grève du zèle.
Ah, je peux pas vous répondre si vous coupez la parole à trois, vous voyez.
Il faut dire.
Donc, on a quelques minutes encore, mon cher.
La grève de la gratuité peut se faire, mais pour ça, il faut qu'on ait l'appui des usagers.
Et il y aura l'appui.
On a l'appui des associations d'usagers. Il faut que ça soit une approche collective.
Pourquoi?
Donc ça monte.
Attends, excuse-moi. Voilà, exactement. Parce que vous vous caguez dessus, en fait. Parce que vous avez peur et vous avez besoin de nous pour vous soutenir. C'est merveilleux, quand même, tu vois. Donc, tu sais ce que tu me fais plaisir quand tu interviens avec moi. Jette ta feuille, là, qu'on t'a écrit à la CGT ou dans ton syndicat et parle en direct. Tu vois ce que je veux te dire? Dis-nous toi aussi tes émotions. Dis-nous toi aussi la vérité, tu comprends? Parce que ton discours appris à l'école des syndicats, c'est bon, mon fils, il peut te l'écrire maintenant.
Selon la direction syndicale, je voudrais...
Eh bien tiens, je sollicite nos auditeurs pour savoir de quel camp ils se rangent. Est-ce qu'ils se rangent du camp des syndicats? Est-ce qu'ils ont raison, justement? Est-ce que vous rangez des camps du camp, justement, de Kauter, de Gamal, justement, qui disent, eux, c'est pas normal de prendre, évidemment, je dis pas en otage, mais d'annuler les trains comme ça? C'est un peu ça aussi, hein, deux TGV sur 5 qui sont annulés. 01-01-53-48-3000. Jimmy Dalidou, merci infiniment.
Deux choses.
Oui.
Ouais, d'accord. Non, juste pour dire. Juste dire
rapidement, s'il vous plaît, Jimmy.
Ouais, très, très rapidement. Juste pour dire qu'effectivement, il y a. Faut pas oublier que la lutte des courants fonctionne aussi. Vous savez, vous connaissez très bien la contradiction.
On a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent. Je voudrais faire le défilé. Énormément d'appels au standard. Je voudrais qu'on les passe ce soir.
Grosse différence. Tracer une ligne de démarcation entre la base travailleuse et militante et la direction syndicale. C'est pas forcément la même chose. Faut pas tout confondre.
Jimmy, c'est pas mon père.
Hein. Jimmy, regardez, justement, restez avec moi. On est inondé d'appels. Enfin, je vous le dis, ça vient de toute la France. Ouais. 01-53-48-3000. Rachida de Paris. Bonsoir, Rachida.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rachida?
Consultante en évolution professionnelle.
Bienvenue, Rachida. Soyez concis et clair, s'il vous plaît.
Oui,
notamment sur ce que dit Kauter Ben Mohamed et Gamal Abina. Allez-y, et Jimmy.
Alors, je pense que le discours syndicaliste, comme il est évoqué par Jimmy, est largement dépassé. On n'est plus dans cette époque-là. Il faut trouver d'autres outils pour défendre.
Il écoute, il écoute aussi. Il est là, il écoute.
Oui, bien sûr. Mais c'est un discours, là. Je pense qu'il faut trouver d'autres moyens de se battre et d'avoir des augmentations de salaire. Ça, j'en suis tout à fait convaincue. Mais moi, je dis ça parce que j'ai été militante politique syndicaliste pendant des années. Et ce discours-là, pour moi, il est dépassé.
Exactement.
Voilà, je pense qu'il faut effectivement remettre en cause leur lutte.
Tout est dit. Attendez, non, vous ne pouvez pas répondre, Jimmy. Je vais prendre. Ça va être le défilé. Il faut que je prenne une série d'auditeurs.
Merci, Rachida.
Merci, Rachida de Paris. On va aller du côté de la ville de Troyes. Tarek, bonsoir, Tarek.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tarek?
Je suis architecte.
Architecte. J'adore. Nous, on a une panoplie de tous les auditeurs. C'est ce que je kiffe, moi, tous les soirs. Non, mais en plus, c'est ça. Tarek, on vous écoute.
Je trouve hallucinant le discours de l'ex-pôle communiste, le peuple travailleur, le peuple ouvrier. Mais vous êtes sérieux? C'est des individus à qui vous empêchez la possibilité d'aller voir leurs parents. C'est tout simple. Il ne faut pas me sortir, oui...
Tarek, c'est le coup de gueule, je le sens.
L'association des usagers, parce que pour annuler des trains, vous avez demandé l'avis des usagers. Mais par contre, pour faire le gratuit, il faut avoir l'association des usagers.
Kaoutar Ben Mohamed parlait d'abruti, vous êtes d'accord avec elle?
Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est impossible, votre discours. On n'est plus... Les mecs, Staline et l'époque communiste, c'est fini.
Bon, Tarek, après votre coup de gueule, je vais continuer de recevoir d'autres appels qui nous émanent de toute
merci
la France.
Merci
Tarek. Hein. Samir de Drancy, bonsoir Samir, 01-53-48-3000. Samir, vous faites quoi dans la vie, mon cher Samir?
Gérant d'entreprise.
Gérant d'entreprise, on vous écoute.
Ben, en fait, je suis pas d'accord avec le syndicat. Franchement, c'est pour les usagers, ils vont voir leur famille, ils vont faire leur fête. Même si on n'est pas des chrétiens... On fait pas les fêtes et les vacances, les gens ils vont voir leur famille.
Ils vont voir leur famille. Moi j'ai plein
ils
de.
J'ai ma soeur qui vient d'Aix-en-Provence le 24 normalement. Ils ont supprimé son train.
Mais un train
et de reprendre une place à 200 euros le 25.
C'est ce qu'elle disait Kaoutar Ben Mohamed, 235 ou 36 euros.
236 euros.
Ils devraient faire leur grève à la rentrée pour que les employeurs n'ont pas leurs salariés. Comme ça ils n'ont pas d'argent et eux ça gueule à ce niveau-là.
Ouais.
Bon, ils n'ont pas laissé les gens monter gratuitement, c'est ça la vraie grève. C'est là où tu mets à genoux ton patron. Vous êtes gérant d'entreprise, monsieur. Si demain vos salariés viennent
Samir.
Et... Comment?
Samir,
vous êtes gérant d'entreprise. Oui. Si demain, je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous êtes précisément, mais n'importe quelle entreprise de consommation, tu ouvres les vannes, des consommateurs prennent gratuitement, mais tu mets les patrons à genoux, à plat ventre, et tu marches dessus, en fait.
Bien sûr, et c'est là qu'il va y avoir du bruit derrière, et c'est là que ça va bouger au niveau des politiques. Bien sûr, mais là, déjà avec le Covid pendant 2 ans, on n'a pas eu le temps de se voir, se croiser, on n'a vu personne.
Mais c'est ça le malheur.
Ils continuent à faire ça. Franchement, la SNCF, c'est nul. Franchement, le syndicaliste, là, ça se fait pas.
Il va vous répondre. Il vous écoute tous là, et ensuite il va vous répondre. Samir, tiens, voilà, Abdel de Taverny. Abdel, bonsoir Abdel.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Abdel?
Je suis ingénieur structure.
Ingénieur structure, on vous écoute. Bonsoir. Abdel.
Bah écoutez, moi, ça me fait rire parce que à chaque fois qu'il y a un mouvement de grève ou une protestation, les gens veulent rester dans le confort et pas toucher à leurs petits acquis. Vous voyez? Mais arrivé à un moment, il faut bien casser les œufs pour faire une omelette.
Ah, ça,
et
c'est sûr.
S'ils font pas la grève pendant une période rouge où tout le monde en a besoin pour se faire entendre, s'ils font ça en période basse, là, la SNCF, elle s'en fout.
Je suis pas certain
du tout. Moi, je suis pas d'accord, monsieur.
Pas certain du tout ça.
Alors, moi, j'ai été bloqué il y a 15 jours.
Kaoutar Ben Mohamed et Gamal. Kaoutar.
J'ai été bloqué.
Il s'appelle Abdel. Hein.
Abdel, bonsoir. J'ai été bloqué. J'étais bonsoir. Pour les GG ici. J'avais un événement avec ma camarade Sophia qui est à ma gauche ce soir à Marseille pour un événement autour du Tech Ball et je salue Jawad qui a organisé ça à Marseille. Et je suis restée bloquée ici. Mon fils était à Marseille. Donc, je n'avais pas d'autre choix. Vendredi, samedi, dimanche. Excusez-moi d'expression. Ça m'a foutu. Bien dans la merde en termes d'organisation, en termes professionnels. J'ai raté un événement pour faire garder mon enfant, pour ses devoirs. Il sortait d'une opération pour sa santé, etc. Et donc, nous, les usagers, on était autant en colère. En fait, je suis autant en colère maintenant que la semaine dernière, sauf que là, c'est décuplé. Et excusez-moi, ce mouvement de grève, il concerne la condition de vie de tous les travailleurs français. Parce que si on paralyse le pays et que ça profite à tout le monde, je peux encore l'entendre. Mais là, c'est pour une poignée de personnes qui ont déjà quand même un statut, excusez-moi, qui est assez privilégié par rapport à la pauvre femme de ménage, par rapport aux carreleurs, par rapport aux gens qui bossent dans le bâtiment, par rapport aux agents de sécurité, par rapport à tous ceux qui ont tenu le pays pendant le premier Covid. Donc, excusez-moi. Ok, moi je veux bien que les travailleurs de la SNCF améliorent leurs conditions de travail, mais c'est pas les pires et les moins bien lotis dans notre pays.
Voilà Abdel.
Oui, je comprends bien, mais ce qu'il faut savoir maintenant, tous ces acquis qu'ils avaient, ils sont en train de se dégrader. C'est pour ça qu'ils protestent. J'ai été coordinateur.
C'est pas pour la question d'acquis qu'ils font grève là.
C'est pour l'augmentation de salaire,
c'est pour l'augmentation, hein, c'est pour l'augmentation 600 euros
fois
2.
Voilà. En fait, ce qu'elles veulent faire maintenant, c'est faire plus avec moins de personnes et moins cher. C'est la course au moins cher. Pendant que eux, ils se gavent.
Merci
Abdel. Il faudrait qu'à un moment, il y ait une redistribution des richesses.
Mais moi, je suis étonné. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ça? Si on fait une grève où on ouvre les vannes, où c'est gratuit, vous voulez faire peur au patronat et aux bourgeois, faites une grève de ce type-là, vous allez voir un peu à quel niveau ils en seront.
Là, ils vont négocier dans 2 jours. Un peu du vol.
Non, c'est pas
désolé,
du vol.
Désolé, mais c'est un peu du vol.
C'est un service public. On ne vole pas ce qu'on paye.
C'est son opinion, Abdel.
C'est un service public, SNCF. On ne vole pas ce que nous payons. C'est les impôts qui paient la SNCF.
Kaouta Ben Mohamed.
Monsieur, vous savez combien moi je dépense pour une intervention par mois à Paris ? Ça me coûte 1328 euros par mois. Je fais 4 interventions, donc 4 allers-retours. Et si on fait x12, ça fait 16 000 euros, 15 936 euros.
Un budget.
D'accord ? Et il y a des jours où je viens, enfin, il y a des semaines où je viens 2 fois par semaine. Donc, excusez-moi du peu, je pense que chaque... Et les trains sont souvent... On ne trouve pas de place, ils sont souvent complets, etc. Donc, excusez-moi du peu, je ne crois pas qu'ils soient à la ramasse. L'argent y est, qu'ils soient mal dispatchés, c'est pas notre problème à nous, les usagers.
Abdel, merci à vous. Abdel, je vais encore accueillir. Merci pour votre pertinence. Nour de Paris, bonsoir Nour, retour à Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nour ?
Bonsoir, je suis gérant d'entreprise.
Gérant d'entreprise.
Absolument, une entreprise de sécurité. Je voudrais saluer Kaouta pour tout ce qu'il a dit. Il avait absolument raison dans tout ce qu'il a dit.
Vous avez une félicitation d'un auditeur.
Merci, monsieur.
La SNCF ne prend en otage ces gens-là. Je pense qu'ils parlent de la France qui travaille. Les agents de sécurité travaillent. Moi, je me retrouve à payer des pénalités parce que les agents n'ont pas pu prendre leur transport et arriver à l'heure parce qu'il y a des absences.
Vous êtes gérant d'entreprise, donc effectivement, il y a des... Ouais, effectivement. Merci, Nour.
Le problème qui se pose, c'est le monopole. Il faut à un moment donné penser à faire rentrer d'autres entreprises de transport qui pourraient assurer le service.
Nour, merci d'être intervenu. Il faut que j'aille vite, parce qu'il y a la pub à lancer.
Merci, Nour.
Jimmy,
bon,
d'une phrase, vous avez entendu massivement la colère des auditeurs. Ouais. Sans langue de bois, vous leur répondez quoi ?
Ouais, non, mais sans langue de bois, alors je comprends, d'ailleurs, je les remercie pour leur intervention, tout à fait d'accord à ce que disait Abdel. Deux choses, première chose...
Rapidement, s'il vous plaît, rapidement.
Ouais, alors d'abord, moi j'invite tous les usagers à rejoindre les cheminots lorsqu'on organise des comités du peuple travailleur, c'est-à-dire des comités, ou dans des assemblées générales dans lesquelles tous les travailleurs publics ou privés peuvent venir discuter et débattre avec nous. Et après, effectivement, tous ensemble, on va pouvoir, tous ensemble, comme indépendamment de notre du travail dans lequel notre force de travail exerce.
Faut que je lance la pub.
Solution collectivement.
Kaouta, en quelques secondes.
Question, non,
vraiment.
Non,
mais en quelques secondes.
Je veux savoir si les cheminots et tous les travailleurs cheminots ont rejoint la grève de Total lorsqu'il y a eu la grève de Total ou quand il y a une grève d'autres travailleurs, y compris les médecins. Donc, excusez-moi, vous n'avez pas l'exclusivité du travail et des lutteurs.
Si. Non seulement on l'a rejoint et on a toujours dit que les conquêtes sociales.
Ouais. Je lance la pub. Merci. Jimmy.
On parle de conquêtes sociales.
Jimmy, merci infiniment d'être intervenu à l'antenne.
Mais de rien,
et au plaisir de se retrouver ici. Je lance la pub et on se retrouve tout de suite après parce qu'effectivement, il faut qu'on avance aussi. On a beaucoup de sujets, mais je voulais accorder cette place aux auditeurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h22. Les informés avec Kaouta Ben Mohamed. Autre grande gueule, justement. Si vous voulez continuer à nous appeler, vous pouvez. 01 53 48 3000. Mais également aussi avec Gamal Abina. 01 53 48 3000. Tiens, je vais demander à Anthony, notre réalisateur, de diffuser, vous savez, la déclaration du porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran. Écoutez.
Je résumerai en disant qu'à Noël, on ne fait pas la grève, on fait la trêve. Vous l'avez dit, il y a des centaines de milliers de Français qui aspirent à retrouver, ils le font parfois une fois par an, leur famille, leurs amis, leurs proches, pour célébrer les fêtes de fin d'année. C'est pas le moment où on fait grève. C'est pas le moment où on prend en otage des Français sur des questions salariales. Je remets pas en cause, évidemment, ni le droit de grève, ni le droit de salariés de manifester ou de se mobiliser. Mais franchement, est-ce que c'est indispensable de le faire un week-end de Noël ? La réponse est non.
Bon, le porte-parole, il a... Non, ça vous fait sourire ?
Oui, parce que je l'ai reçu, Olivier.
Kaouta Ben Mohamed.
Je l'ai reçu. Alors moi, oui, d'accord. On vient de gueuler. Oui, pour nous, habitants, citoyens, c'est intolérable. Mais si les politiques, et pas que, depuis des décennies, faisaient leur travail, nous n'en serions pas là, tant chez la SNCF, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, et en fait, il n'y aurait pas de grève et tout irait bien, en fait. C'est à cause de l'immobilisme, à cause du manque de courage institutionnel et politique de ceux qui nous gouvernent depuis des décennies au niveau local et au niveau national que nous en sommes ici. Donc son petit conseil, il est un peu malvenu.
Malvenu, vous partagez ça ou pas du tout?
Oui, tout à fait, mais il a le sens de la formule. Hein. Grève, trêve, c'est mignon comme effet. Mais dans les faits, c'est une façon de surfer sur la réaction populaire qui est légitime, à savoir qu'on leur fait un coup de crasse. Il faut rappeler, il y a des auditeurs qui l'ont dit, 2 ans de Covid, on ne se réunit pas, ça a été dur et violent, et ils nous remettent ce cadeau-là. Ça, c'est salaud. Ils n'avaient pas besoin de faire ça parce que de toute façon, si vous voulez faire une grève illimitée, vous pouvez commencer en janvier. Ça, c'est pas sympa. C'est vraiment. Voilà. Je comprends qu'on ait des revendications, mais il faut quand même respecter un peu le besoin du peuple de se retrouver pour la première fois depuis 2 ans de Covid, quand même.
Autre sujet qui continue de faire débat, vous savez, c'est celui de la finale de la Coupe du Monde où le chef de l'État, le président de la République, Emmanuel Macron, en a-t-il trop fait pendant, après la défaite des Bleus, a rencontré à plusieurs reprises avec des gestes très tactiles auprès de Kylian Mbappé, aller les voir, évidemment, pour aussi leur remonter le moral des troupes, c'est normal, en plein vestiaire. Kaouta Ben Mohamed, alors comment vous avez vécu tout ça avec un peu plus de recul?
Moi, je trouve depuis le départ que c'est un non-débat. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'important. Tout le monde sait que Macron est un fan de foot et de l'OM en particulier, excusez-moi. Et j'avais l'impression de voir mon fils sur le terrain, en fait. C'est comme ça. Si tu lâchais un vrai fan de foot, parce que tu vois, je me suis pris la tête avec Charles Consigny avant-hier sur le plateau. Oui, il a tombé la veste. Mais bien sûr, quand tu as fond dans un stade, dans un
sport, on réagit tous comme ça. Moi, j'aime le foot, j'avoue. J'avoue, je crie dans tous les sens, voilà. Hein. Je saute
mon
même.
Mon fils était en ébullition, il sautait sur le canapé chez mon ami Hassan Boukhalifa, qui est en vacances aujourd'hui, que je salue, qui est au Maroc, en Égypte, là tout de suite. Tous les fans de sport, et en particulier du foot, il y a une ferveur dans les stades, où même quand tu n'es pas fan, tu te retrouves à te déshabiller presque. Donc moi, je crois qu'on a affaire à un jeune président qui est très très fan de football, qui était avec des stars qu'il admirait avant d'être président il y a quelques années. Et voilà, alors après, il y a des gestes qui étaient malvenus. Sa prise de parole, c'est pas un discours, c'est une prise de parole. Je pense qu'en termes de temporalité, elle était pas bonne, elle était pas adaptée.
Le fait d'aller voir Kylian Mbappé à plusieurs reprises pour le réconforter, le consoler.
Mais n'importe quel fan de foot, même toi.
Mais est-ce que c'est le rôle du président?
Oui, mais là on n'avait plus un président là. Là on avait un fan de foot en fait. C'est ça la réalité. Ouais, et en fait, polémiquer sur ça quand le pays est dans l'état où il est, c'est un non-sujet en fait.
Non-sujet, Gamal Abina.
Mais tout à fait, d'abord, il faut se rappeler que Jacques Chirac aussi, lorsqu'il était dans les gradins, à plus de 60 ans, il sautait dans tous les sens. Là, on parle d'émotion, on parle de Coupe du Monde, une fois tous les 4 ans quand même, ça compte. Et moi, j'ai pas envie de faire le procès pour une fois à Macron d'un truc qui finalement le rend sympathique. Je ne vais pas lui faire le procès parce qu'il se montre pas raciste. En plus, rappelons quand même que, je le répète systématiquement, Macron a cette qualité qui est rare, il n'est pas raciste. Donc, on l'a vu déjà à l'époque, dans des vestiaires, aller voir des footballeurs, être très tactile. C'est le style Macron.
Prend le temps de les embrasser les uns après les autres.
Parce que c'est le style Macron.
On le met dans les images. Hein.
Il a un côté.
Il prend le temps d'aller le voir.
Il a un côté un peu populiste. En réalité, c'est un côté, je suis jeune comme vous. Et le problème, on ne peut pas reprocher un jeune président, et c'est le plus jeune que la France n'ait jamais eu. Hein. Le plus jeune avant lui, c'était Giscard avec son crâne chaud, mais son côté un peu croissance. Là, on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus ouvert. Je ne vais pas le faire le procès à Macron. Ils ont en plus un échec. Ils ont espéré une réussite, évidemment. Politiquement, ça a du sens. On ne va pas lui faire le procès d'avoir été sympa. Pour une fois, ça nous change.
Allez, autre sujet avant de retrouver, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Hein, il est 19h27 avant de retrouver Time Sport. Marine Le Pen qui demande à Elisabeth Borne, la première ministre, de dissoudre, vous savez quoi, les groupuscules extrémistes. Est-ce qu'il se casse quelque chose de sous-jacent derrière tout cela, Kaouta Ben Mohamed?
Moi, j'ai cru qu'on était le 1er avril. Je pensais que c'était une blague. Donc, c'est quand même hallucinant. C'est la fille du pré-fondateur de tous ces mouvements extrémistes, d'une violence absolue, qui ne sont jamais définis comme des néo-terroristes ou des terroristes, alors qu'ils commettent quotidiennement, dès qu'ils s'expriment, des actes de terrorisme, viennent sous prétexte de normalisation grâce aux médias depuis des décennies, nous dire qu'il faut dissoudre les partis qu'ils ont très activement participer à créer et à fonder et à faire exister. Donc voilà, moi je croyais que c'était une blague, mais non. Par contre, il faut faire très attention à ça parce qu'elle se considère donc, elle signe le fait qu'elle se considère.
À quoi joue alors? À quoi joue Marine Le Pen?
Elle se considère comme un parti républicain qui pourrait demain accéder à la présidence. Et ça, c'est grave.
Est-ce qu'elle n'est pas en train de viser la NUPES? C'est ça, moi, mon questionnement.
Elle vise les deux.
Non, mais si, oui, elle vise les deux peut-être. Ben si, elle vise en gros, elle vise l'extrême gauche.
Elle vise aussi l'extrême gauche, mais elle vise aussi l'extrême droite qui la décrédibilise, notamment lors des échauffourées qu'il y a eu après le match Maroc-France, parce que la violence a été pendant des jours et des jours prédéfinie comme venant des franco-marocains, des franco-africains, des descendants de l'immigration coloniale. Et en fait, elle est venue des groupuscules d'extrême droite qui sont venus chercher les Français, parce que je rappelle que ces jeunes sont des Français, et ça s'est mal terminé pour un enfant de 14 ans qui est décédé en banlieue de Montpellier. Et c'est par rapport à. Enfin, l'action de ces groupuscules d'extrême droite, aussi des filacroniques, ça la dessert, et elle voit déjà le prochain mandat.
Gamal Abina, elle voit déjà le prochain mandat. Très intéressant.
Le mot utilisé par Kéantar et le mot le plus important, c'est faire en sorte d'être dédiabolisé et de rentrer dans le cercle politique. Lorsqu'elle dit qu'elle ne veut pas entendre parler des mouvements extrémistes de gauche, évidemment, c'est logique, elle est dans son rôle, mais de droite, c'est parce qu'effectivement, d'abord, cette Coupe du Monde a révélé qu'un groupe organisé, alors la police fait bien son travail, les renseignements font le boulot, on a déjà parlé avec Thierry Vincent qui avait fait un gros travail dessus. La police, les renseignements français ont systématiquement éteint les actions violentes et terroristes de la part de l'extrême droite. C'est parce qu'ils sont très organisés. C'est pour ça qu'on arrive à les retrouver. Alors, il faut savoir qu'à la Coupe du Monde, effectivement, on parlait de 2-3 échauffourées, 3 vitres brisées, pas grand-chose. Eux, c'était de l'action violente, poids américain, armes de main. Donc, elle a eu peur de ça. C'est pour ça qu'elle les condamne.
Merci infiniment, mon cher Gamal Abina. À très vite, au plaisir.
Avec plaisir, comme tous les mercredis.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Vous aussi, comme tout le monde.
Kaoutar Ben Mohamed, autre merci. Grande gueule. Ici, maintenant, les informés. On vous retrouve très vite, alors.
J'espère.
Avec grand plaisir, vous savez,
merci
vous êtes chez vous maintenant, après ce que je vous vois les éloges des auditeurs.
Faut pas les éviter. Hein.
Comment vous pouvez pas revenir, franchement?
Je reviendrai bientôt, promis.
Oui, voilà, exactement.
Belle fête de fin d'année à tous.
I'll be back, comme dirait-on.
Oui, absolument, merci infiniment. Bilal Lendman, Time Sport, comment ça va mon cher Bilal?
Très très bien.
Quelle est le menu de ce soir?
On va parler de Kylian Mbappé, et aussi de la ferveur argentine.
Pourquoi il est revenu au PSG? Qu'est-ce qui lui arrive?
Il n'a pas le temps.
Il devrait partir en vacances.
Mais c'est vrai. Moi, je dis respect à Kylian Mbappé.
Mais prends le temps
merci
de te reposer.
Merci Wilfried aussi.
Oui.
Parents honorables. Oui. Et aussi un gars honorable. Vraiment, il veut tout gagner. Il a raison.
Alors, le programme direct. Ce soir, c'est Mbappé.
Le programme, on va parler d'Mbappé. Avec un peu les dires de certains supporters argentins.
Oui.
Hein, avec ses photos.
Bah, quand Ben Mohamed, justement, elle a un coup de gueule.
Avec
coup de gueule.
Le cercueil et brûlant des photos.
Vous en avez parlé, j'ai vu sur votre Twitter.
Il y a un petit accent commun, je vois.
Ouais. Sont...
Kaoutar Ben Mohamed, qu'est-ce que vous avez dit?
Ces gens-là ont tout sauf l'esprit sportif. Le petit Kylian Mbappé, je dis petit parce que j'ai le double de son âge, il lui a mis 4 buts dans la tête en 20 minutes et il la ramène.
Il la ramène.
Juste tais-toi.
Ah, excellent. Bravo. Tout est dit. Merci
surtout,
à vous.
Et surtout,
merci.
Son geste lors de la Coupe du Monde, et je vais écrire à la FIFA en ce sens, est d'une indécence absolue et donne un très mauvais exemple du sport et du foot devant des millions d'enfants.
Honte,
et il devrait être sanctionné par rapport à ça.
Tout à fait.
Bilal Lendman.
On va la garder avec nous alors.
Voilà, exactement. Bilal Lendman, à tout de suite dans une poignée de minutes.
On y va.
Jusqu'à 21h. Ensuite, c'est Vanessa à 21h. Merci à la réalisation à Anthony. Quant à moi, je vous retrouve demain. Avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.